un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
On peut les appeler des mineurs ou bien dire des enfants. Ça dépend des points de vue, de notre humanité, de notre empathie, que certains jugeront exagérée ou inappropriée, ou au contraire d'une volonté d'objectiver, de rester neutre, technique. Mais c'est vrai que c'est difficile, avec des enfants, de garder le cœur froid. C'est ce qui se passe en ce moment dans les rues de France où des dizaines de mineurs, arrêtés, placés en garde à vue, déférés, sont plus ou moins bien traités. Mais ce sont aussi des enfants, des gamins, naïfs, idéalistes, violents, stupides parfois, des cocottes minutes, qui ne veulent justement pas être traités comme des enfants. Ceux dont nous parlons aujourd'hui cependant ne luttent pas contre une réforme, pour un monde plus juste ou pour de mauvaises raisons, mais simplement pour survivre, avoir un toit et de quoi se nourrir. Et le devoir premier que nous avons à leur égard, c'est de les protéger, eux comme les autres. Bon, je tempère mon lyrisme, on va donc dire des mineurs dans les deux cas et arrêter là la comparaison. Cette histoire, donc de mineurs isolés, commence sous un pont à Ivry et ce sont des riverains qui, à l'automne dernier, nous ont alertés sur le cas de ces jeunes dormant sous des tentes. Un récit d'Émilie Chaudet.
Il est où l'autre?
Moi, madame.
C'est toi?
Oui.
Elle est où ta couverture?
Il est là-bas.
Oui. Mais il faut que tu les amènes. On va écrire ton nom sur le sac, ok?
Je viens de sortir de ma tente parce que je me sens déshumanisé, je me sens, je sais pas, je me sens bizarre, je me sens plus personne au fait. Parce que je ne savais pas qu'en France, je pourrais venir et puis dormir comme ça dans la rue, à plein Paris. Parce que dormir dehors à 1 degré, c'est pas facile. Moi, je m'appelle Dembas. Je viens de la Côte d'Ivoire.
Et vous avez quel âge?
Moi, j'ai 16 ans. Moi, en ce moment, on attend une mise à l'abri. Donc, on ne sait pas c'est quand donc on attend. Pour l'instant, sous la pluie et dans la fraîcheur. Mais on ne savait pas que ça allait être aussi difficile que ça. On est arrivé en France. J'ai fait une demande de minorité et ça n'a pas été accepté. Et quand ils ont refusé ma minorité, bon, ils m'ont mis dehors, du coup, j'avais pas un coin où dormir. Je me suis retrouvé à Ivry, actuellement, en bas du pont.
Et vous donnez des nouvelles à votre famille, là?
Bon, actuellement, pas trop, pas trop. Et ils ne peuvent pas s'imaginer qu'ici, en France, que tu pourrais dormir dehors. Donc, pour ne pas les inquiéter, on préfère croiser les doigts pour que cette tempête puisse passer.
Je m'appelle Mustapha.
Vous avez quel âge?
Bientôt 16 ans, d'origine sénégalaise. J'ai perdu tous mes deux parents à la fois. Donc ces deux majeurs qui m'ont amené ici, ils avaient eu pitié de moi et ils m'ont dit on peut t'aider. Ils m'ont amené jusqu'à la gare de Lyon. Ils m'ont tous dit attends-moi si on va aller chercher manger pour toi. Et ils sont partis, ils m'ont laissé là-bas. Et donc moi, à un moment où je vous parle, je ne connais personne ici en France, rien. Moi j'aimerais continuer l'école. Si c'est possible quand même, parce que vraiment c'est ce que je souhaite. On a besoin de repères vraiment, parce qu'actuellement on est complètement perdu. Et on souffre beaucoup avec ce hiver qui vient comme ça. On passe toutes 24 heures sur 24 à discuter sans dormir avec les tentes. En bas tout est mouillé, personne ne peut dormir ici.
Nous sommes sur la place du Palais Royal. Quartier cossu et touristique situé dans l'hypercentre de Paris. Cela fait quelques semaines que j'entends parler de jeunes mineurs isolés qui vivraient depuis des mois sous les ponts à Ivry-sur-Seine et dont le nombre ne cesse de grandir. Quand je décide d'aller voir ces quelques 300 jeunes au début du mois de décembre, j'apprends qu'ils sont en train de déplacer leur campement en plein centre de Paris. Le jour où je viens à leur rencontre, il fait 3 degrés, et une pluie glaciale tombe par intermittence sur la centaine de tentes déployées sur la place, entre le musée du Louvre, qui a fermé ses grilles depuis le début de l'occupation, et le Conseil d'État.
Quelqu'un veut un pull ou pas?
Ok, ça marche.
Ouais, je vais regarder les pantalons.
Tout autour de la place, les voitures filent. Quelques passants s'arrêtent pour demander ce qu'il se passe et ce qu'ils peuvent apporter aux personnes qui campent ici. Mais on ne peut pas dire que ça se bouscule. Ce sont les associations qui prennent tout l'espace, Distribution de thé, de sandwichs, de chaussures, de vêtements.
Ils essaient de se réchauffer. La nuit a été absolument affreuse. Ils ne dorment pas avant. Ils jouaient aux cartes jusqu'à 4 heures, essayaient de se réchauffer. Ils sont à 3 dans les tentes. Et il y a eu beaucoup d'hypothermie. Donc on en est à peu près à 10 hospitalisations. À peu près. Utopia, 56, a rassemblé à Ivry-sur-Seine tous les jeunes qui sont en recours de demande de minorité. Et donc ils attendent tous que les duplicatas de leurs papiers de pays d'origine leur reviennent pour pouvoir prouver qu'ils sont mineurs. Mais ils étaient installés à Ivry-sur-Seine, sur les bords de Seine, donc invisibles en fait. Donc Utopia a décidé de faire une action beaucoup plus visible, de s'installer devant le Conseil d'État et de dire on ne bougera pas tant qu'une solution définitive ne sera pas trouvée pour tous ces jeunes-là. Ça représente à peu près 500 gamins. Et ils sont à 2 ou 3 par tente. Donc moi je suis Jean-Charles Canu. Et en fait, j'étais riverain du camp qui était installé à Ivry-sur-Seine. Et en fait, ça a commencé très bêtement. Je marchais le long de la Seine à Ivry. Et puis j'ai vu au mois de juin 2-3 tentes s'installer, mais elles étaient cachées derrière un parapet, on ne les voyait pas beaucoup. Puis ça a commencé à s'étaler. Puis au mois de juillet, ça a mordu sur tout le trottoir. Et je me suis arrêté et j'ai interrogé les jeunes. Et ils m'ont dit d'où ils venaient, etc. Et puis j'aurais demandé s'il y avait une association qui les entourait un peu, qui les accompagnait. Ils m'ont parlé d'Utopia. Et je me suis dit, mais en fait, il n'y a pas de distribution de bouffe, il n'y a pas de maraude, etc. Alors avec un groupe de voisins, on a décidé qu'on allait coordonner des maraudes pour qu'il y en ait tous les soirs. Et du coup, on s'est retrouvé avec une dizaine d'associations qui sont venues apporter quasiment tous les soirs à manger. Donc on a organisé ça. Et puis nous-mêmes, on a fait quelques distributions quand il n'y avait personne. On avait vraiment l'impression de gosses qui étaient totalement livrés à eux-mêmes et désemparés, mais vraiment désemparés. Et puis au fur et à mesure que le temps a passé, et au fur et à mesure qu'on faisait des maraudes, après on y est allé tous les soirs on était avec eux, etc. On finit par les connaître et on a vu que leur état s'est dégradé, mais de jour en jour. Quelques maladies, quelques blessures, des pieds abîmés, un peu de gale, et puis surtout l'état psychique, avec des gens qui devenaient mutiques. Et puis qui était dans un état quasiment enfin dépressif quoi. Ceux qu'on voyait joyeux la veille qui tout d'un coup ne parlaient plus, on a retrouvé un soir un gamin qui avait la jambe cassée dans sa tente. Il était tombé dans les escaliers qui descendent du pont et il se plaignait pas, il était dans sa tente et il a pas dormi de la nuit et puis c'est un bénévole qui a ouvert la tente et qui l'a découvert avec la jambe cassée. C'est de ce niveau-là quoi. Donc quand Utopia a dit on déménage et on fait ce coup de force. Bon, bah, nous, on a dit, on vous suit. Et effectivement, le 2 décembre, à 11h, ils ont donné rendez-vous aux jeunes. Les jeunes ont pris leurs affaires et ils se sont retrouvés ici à Palais-Royal. Et on est le 6 aujourd'hui. Et toujours, absolument aucune nouvelle des autorités de la préfecture. La préfecture refuse de rencontrer les associations qui encadrent les jeunes. Les jeunes, ils sont très habitués à des mises à l'abri provisoires où, quelques jours après, on retrouve ces mêmes jeunes à la rue. Ils sont épuisés. Mais ils ont bien compris que c'était le dernier recours. C'était d'être dans cet endroit visible. Ils ont bien pigé que Ivry-sur-Seine, personne ne les voyait. Et qu'ici, c'était le seul moyen qu'on s'intéresse un peu à eux. Et c'est le cas, effectivement. La presse commence à arriver, l'opinion publique commence à en parler, alors que ça faisait 6 mois qu'ils étaient sous les ponts à Ivry et que personne n'en parle.
Quand je quitte la place, au bout de quelques heures, je me sens tellement paralysée par le froid que je n'arrive même pas à remonter sur mon vélo. Et je me demande comment ces jeunes ont fait pour tenir déjà 3 nuits comme ça. Et combien de temps ça peut encore durer. Le soir venu, Jean-Charles m'envoie une vidéo. On y voit tous les occupants de la place du Palais Royal en train de crier de joie autour d'un responsable associatif d'Utopia 56. Au bout de 6 mois de vie à la rue, ils vont enfin être hébergés sur ordre de la préfecture. Pour la majorité de ces jeunes, 147 au total, ce sera au gymnase des Épinettes à Ivry, que le maire avait mis à disposition de la préfecture depuis des mois sans obtenir de réponse. Pour quelques autres, ce seront des petites maisons en Seine-et-Marne, une à Montévrin, une autre à Couvray. D'autres encore seront hébergés ailleurs en France.
Je m'appelle Aïcha, j'habite en Seine-et-Marne. C'était décembre, on faisait un petit déjeuner justement. Donc on avait mis des tables, on avait préparé notre maraude comme habituel. Mais là, quand on a vu arriver ces jeunes, un après les autres, ça a été... Je suis assez émue parce que c'était une image qui m'a choquée. Je me suis imaginée voir ma fille dans... comme ça dans cette situation, sans sa mère, loin de sa famille, et ça m'a choquée de voir ses enfants. J'avais besoin de comprendre, j'avais besoin de les aider. Donc notre association, elle a servi ce petit déjeuner, et c'est de là qu'on a fait les maraudes aussi au palais royal. Un matin, avant que le jour se lève, on nous a dit qu'ils étaient évacués à 5 heures du matin, et qu'ils ne savaient pas où allaient les enfants, qu'ils allaient monter dans des bus. Moi, je trouve ça traumatisant pour des jeunes à 5 heures du matin d'être précipités dans des bus et puis ils savent même pas où ils vont. Et le jour même, on a su où étaient les enfants. C'était Couvray. Ça me parlait tout de suite parce que je suis de Seine-et-Marne et j'habite proche de Couvray. Et je me suis intéressée pour savoir ce qu'il en advenait en fait. Et j'ai été informée par une association qu'ils étaient arrivés à telle adresse. Et qu'ils n'avaient pas mangé. Donc là, c'était pour nous urgent. Donc on s'est dépêché de faire des sandwichs, d'aller faire des courses. Donc je suis allée les voir le soir même. Et j'étais contente parce que des tentes, je les ai trouvées dans une maison où c'était chauffé, où il y avait quand même le confort. Donc là, ça m'a rassurée. Pour eux, c'était l'espoir. Se dire, ça y est, on est sortis de cette galère. Après, l'envers du décor, c'est qu'ils se retrouvent dans une campagne. Il n'y a pas de transport. Ils sont isolés. On a dû prévoir pour ces jeunes-là des kits d'entretien pour balayer. Ils lavaient leur linge avec du liquide vaisselle. Et pourtant, ils ont des machines à laver dans la structure, mais ils n'avaient pas ce qu'il fallait pour le faire. Donc, c'était pas croyable. Ils n'avaient pas de kit d'hygiène pour se laver. Ils ont pas. Alors, ils ont une belle maison, ils ont un toit, mais à l'intérieur, les frigos sont vides, il n'y a rien. Ils avaient un contact d'un hébergeur mandaté par la préfecture qui leur attribuait 4 euros par jour et le logis. Donc j'ai appelé ce bailleur en me présentant et en expliquant la situation. Et la seule chose que j'ai pu avoir, c'est qu'effectivement, ils étaient là pour loger ces jeunes et leur donner 4 euros. Il n'y avait pas d'autres explications. Nous étions juste une petite association, on était là dans une spirale et on ne savait pas comment leur venir en aide administrativement, comment faire pour s'occuper d'eux s'ils tombaient malades. Enfin, vous voyez, toutes ces choses-là, j'avais aucune réponse. Je ne savais pas comment je devais procéder. On était, malgré nous, dans quelque chose de compliqué, qui nous dépassait. Nous, on était habitués aux petites maraudes de campagne. On va donner à manger aux plus démunis sous les ponts ou des petites maraudes à Paris, mais pas habitués à prendre en charge des enfants dans leur éducation. Ça devenait trop compliqué. Donc, j'ai appelé quand même la mairie de Couvray. Je suis tombée sur le cabinet du maire et... ils n'étaient absolument pas informés de la visite de ces jeunes migrants et ils pensaient vraiment que c'était un canular. Donc ils sont quand même partis les voir parce que je leur avais donné une adresse bien précise et ils ont laissé leur carte de visite. Donc entre-temps, je les ai relancés et j'ai eu le CCAS de la mairie qui me disait qu'effectivement, ils étaient en train de faire le point avec la préfecture pour savoir comment les accompagner. C'est chacun compte sur l'autre. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens, mais il n'y a personne. Quand on discute avec les gens, c'est on revient vers vous, mais on ne revient jamais vers nous. Parce que peut-être ils ne savent pas quoi me dire, mais moi, à mon niveau, qu'est-ce que je peux faire? Aujourd'hui, on ne connaît pas leur devenir, jusqu'à temps qu'on ait une réponse, qu'ils aient leur papier, qu'ils aient leur statut. Ça peut durer 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. On n'a aucune information. Hein, on les suit, on continue à les suivre parce qu'on se prépare à l'idée que peut-être, à partir de mars, on va les retrouver sous le pont d'Ivry. Hélas.
Ces 17 jeunes mis à l'abri en Seine-et-Marne, et qui sont encore 14 aujourd'hui, sont hébergés par Equalis, une association d'accompagnement des sans-abri et des migrants, qui dispose d'un budget de 81 millions d'euros, composé à 100% de fonds publics, et qui, soit dit en passant, se trouve sous le coup d'une enquête judiciaire et d'une inspection administrative, à cause entre autres des salaires exorbitants accordés à quelques-uns de ses anciens cadres. 18 000 euros bruts mensuels pour l'ancien directeur, par exemple. Dans ce contexte, ces 4 euros par jour font un petit quai. Quelques semaines après notre rencontre, Aïcha, que nous venons d'entendre, a fini par lancer une cagnotte, à titre personnel, afin de pouvoir faire des courses régulières pour les occupants de Coubray, qui, m'a-t-elle dit, ne mangent souvent qu'une fois par jour, et revendent parfois leurs tickets resto contre des cartes de téléphone pour appeler leur famille au pays.
Ils font du toboggan. Ils font le toboggan, mais alors, visiblement, ils ont la trouille. Et c'est dans ces moments-là qu'on s'aperçoit effectivement que ce sont des gosses. Quand on est avec eux, ils sont toujours très sérieux. À certains moments comme ça, où effectivement on voit qu'ils ont basculé dans le monde des adultes très rapidement, mais que ça demeure des gamins. Et puis qu'ils ont besoin d'être entendus, d'être un peu maternés, d'être un peu choyés, etc. Ils ont besoin de ça.
Comme Aïcha intervient auprès des jeunes hébergés à Couvray, Jean-Charles et sa femme, ivriens de longue date, s'occupent des jeunes qui vivent dans le gymnase. Ils organisent des sorties à la médiathèque, au parc, des matchs de foot, des collectes de livres et de vêtements. Ils ont installé des casiers personnels à la maison de quartier et ont lancé une cagnotte auprès de leur entourage. À leur arrivée en France, ces jeunes ont passé une évaluation de minorité menée par France Terre d'Asile, association financée à 70% par le ministère de l'Intérieur. Et il se trouve que cette même association, qui leur a donc refusé le statut de mineur, se retrouve maintenant mandatée par la préfecture du Val-de-Marne et dotée par l'État pour les héberger au gymnase d'Ivry en vue de leur recours devant le juge des enfants. Depuis la mise à l'abri de ces 147 personnes en décembre, 72 d'entre eux ont été reconnus mineurs et ont rejoint des structures de l'aide sociale à l'enfance. 17 autres ont quitté le gymnase sans repasser devant le juge et n'ont plus donné de nouvelles. Les autres attendent leur recours.
Je m'appelle Amadou.
D'accord, vous venez
de Guinée.
Vous avez quel âge?
16 ans. On a vécu des choses qui sont un peu terribles, difficiles dans notre vie, qu'on ne peut pas expliquer. Donc j'ai perdu mes parents, moi. Et j'ai vécu dans la nature, comme ça, dans la rue. Dans le gymnase, ça va pour le moment. Toute la journée, donc, nous sommes dedans. Des fois, il y a d'autres qui prennent leur cahier pour dessiner, d'autres qui sont là, seuls, assis. Et il y a certains qui se demandent est-ce que ça va marcher. Donc, dans la tête, ça ne va pas pour le moment. Parce qu'en tant que tu es là, tu attends ton recours. Donc, on espère quand même. Chaque seconde, chaque minute, on espère. Donc, je suis parti au tribunal de Paris, j'ai déposé mes documents. Ils m'ont dit d'envoyer un extrait de naissance. J'ai dit, moi, je n'ai pas d'extrait de naissance, je n'ai pas quelqu'un au pays.
Et comment vous allez faire si on vous demande un extrait d'acte de naissance que vous ne pouvez pas avoir?
Ah, c'est là. Donc, ça va être un peu difficile pour nous, les gens qui n'ont pas d'extrait de naissance, mais quand même, ça ira. S'il me confirme mineur, s'il ne me prend, c'est bien. Et s'il me demande qu'est-ce que je ferais dans ma vie, et je souhaiterais, moi, faire la soudure, travailler, aider la population, ou bien aider le pays à se développer. Je rêve aussi de créer des choses, moi, dans la soudure. Par exemple, construire des ponts, moi, j'aimerais faire ça.
Ça va, il faut que tu gardes le moral, hein. D'accord?
Oui. Merci à vous.
Tu fais quoi cet après-midi?
Non, rien, mais je sais pas.
Tu fais rien?
Je suis tout à l'heure.
Je
sais pas si on a le droit de rentrer.
Quand je tente d'entrer dans le gymnase pour voir à quoi ressemble ce lieu de vie temporaire pour ces jeunes, je me fais gentiment barrer l'accès par des vigiles qui gardent l'entrée et surveillent aussi avec une suspicion évidente les allées et venues des jeunes dans le gymnase.
Bonjour. Bonjour.
Je suis les jeunes depuis qu'ils sont dans la rue.
Vous êtes journaliste, c'est ça?
C'est ça.
Malheureusement, on n'a pas le droit de faire ça, madame. Je vais être responsable, ok?
C'est France Terre d'Asile qui sous-traite cette mission de gardiennage à une société spécialisée dans l'hôtellerie sociale nommée Les Toits du Phénix.
Elle n'est pas là, madame. Désolé.
Et je peux écrire à cette personne ou pas?
Non, je n'ai pas défendu de ça.
Je me dis que beaucoup d'acteurs institutionnels dans ce processus de mise à l'abri ne sont pas forcément formés à recevoir et à considérer ce jeune public. Et c'est justement ce à quoi est régulièrement confrontée Caroline, une éducatrice spécialisée qui travaille avec d'autres jeunes dans un tout autre département, loin d'Ivry-sur-Seine.
ces enfants, quand ils arrivent de leur parcours d'exil, souvent très très douloureux, ils sont très fragilisés, ils se retrouvent dans la rue, souvent à errer, et parfois des bonnes âmes ou des bénévoles viennent à leur rencontre, et ces personnes les orientent vers un service d'évaluation. Donc c'est un moment qui est très particulier. Moi, j'ai des ados qui me racontent que ça a été un moment très très éprouvant pour eux, parce que quand ils arrivent à cet entretien d'évaluation, ils sont épuisés psychiquement, ils sont épuisés physiquement. Souvent, ce sont des enfants qui n'ont pas été scolarisés dans leur pays, qui ne connaissent même pas leur date de naissance. Et ils vont les questionner sur la composition familiale, par exemple, leurs conditions de vie au pays, le parcours d'exil. Pour rappel, le jeune, il arrive dans cet entretien, il est épuisé psychiquement, il est traumatisé. Évidemment, il va être un peu confus dans ses explications. Parfois, il est en déficit de confiance par rapport à l'adulte, parce qu'il en a rencontré au préalable tellement qui ont pu abuser de lui, qui ont pu lui faire du mal. Donc, dans les réponses qu'il peut apporter, très souvent, les conclusions qui en sont tirées par l'évaluateur, c'est que le discours est trop confus pour être crédible. J'ai le souvenir d'un compte-rendu d'évaluation concernant Mohamed, qui a été détaillé de la tête aux pieds et pour lequel l'évaluateur a retenu qu'il était petit et massif, qu'il dégage une très forte odeur, et que même si il est rasé de près, il est visible qu'il a une barbe. Mamadou, lors de l'évaluation, il est décrit comme méprisant et agacé, voire méfiant. Donc ça suffit là aussi à l'évaluateur pour conclure que le récit n'est pas crédible pour un adolescent. Ce qui se passe pour le jeune à ce moment-là, c'est qu'il ne pourra pas bénéficier d'une protection de l'aide sociale à l'enfance et sera, on va dire, comme débouté de sa demande de protection. Moi, j'ai l'exemple d'un jeune Ali à qui c'est arrivé, c'est-à-dire que l'entretien d'évaluation a conclu à sa majorité. Le problème, c'est qu'il avait des photos de ses documents d'état civil qui prouvaient sa date de naissance. Donc Ali s'est retrouvé à la rue plusieurs jours. Il a pu saisir, avec l'aide d'un avocat, le juge des enfants. Le juge des enfants a fini par ordonner son placement puisqu'il a décrété que Ali était mineur et isolé sur le territoire français sur la seule base de ses documents d'état civil en photo sur son téléphone. Ce qui n'a malheureusement pas empêché le département de faire appel de la décision du juge des enfants. Et ils ont gagné en appel, ce qui a stoppé net l'accompagnement socio-éducatif qu'on a pu proposer à Ali durant les premiers mois où il est resté dans notre service. Ali s'est retrouvé sans solution d'hébergement du jour au lendemain à la rue, sans possibilité d'être pris en charge par le 115 puisqu'il a des documents d'état civil mineurs, donc le 115 ne prend en charge que des majeurs. Il a pu, avec l'aide de bénévoles de cette association d'aide aux migrants, récupérer les originaux de ces documents d'état civil, évidemment avec la même date de naissance, donc qui prouve, s'il le fallait encore, que Ali était mineur. Il avait 16 ans et demi au moment de toute cette procédure. Donc, le juge des enfants, qui a été saisi une nouvelle fois sur la base de ces nouveaux éléments, a une nouvelle fois ordonné au département le placement d'Ali dans un service de protection de l'enfance. Ali est donc revenu dans notre service.
Reconnaître ces jeunes comme mineurs implique une prise en charge par l'aide sociale à l'enfance qui représente environ 30 000 euros par an et par mineur, selon un récent rapport de l'Inspection générale des affaires sociales. Et ce coût, selon ce que me disent les travailleurs sociaux à qui j'ai pu parler, l'État n'est pas toujours prêt à le prendre en charge. Serait-ce alors pour cela que ces procédures de reconnaissance de minorité traînent tellement dans la durée ? Amadou, lui, attend toujours son recours et passe ses journées enfermé dans le gymnase d'Ivry.
J'apprends encore à mieux lire et à mieux conjuguer les verbes aussi. J'apprends beaucoup de trucs à l'école ici. Ce n'est pas l'école normale, mais c'est juste pour ne pas rester comme ça dans le gymnase sans rien faire. Donc on vient ici, on nous apprend des verbes, comment faire, et donc au mieux s'adapter.
On est en mars, ça fait bientôt 4 mois que tu es dans le gymnase.
Oui, au début, ce n'était pas facile, mais de fil à mesure que les jours avancent, j'ai trouvé des amis là-bas. On était au début 100 et 70 comme ça, mais maintenant nous sommes à 69. D'autres sont partis, d'autres ont été reconnus mineurs. Donc pour moi, je ne laisse pas quand même, ils vont me confirmer. Je suis dans le gymnase, je ne sors pas, je peux faire 4 jours, presque une semaine sans sortir.
Pourquoi tu ne sors pas?
À chaque fois que je me réveille, que je me trouve dans le gymnase et je vois aussi d'autres gens qui parlent, et moi je suis là, et donc ça me fait un peu de la peine. J'ai commencé à lire des livres qu'on a envoyés dans le gymnase, des romans, des petits livres qui permettent d'améliorer le français un peu. Donc c'est avec ça, souvent la nuit, quand il n'y a plus de gens à côté, je prends ça pour lire, pour mieux comprendre. Je lis le roman Siménon. J'attends toujours mon certificat de nationalité. Mon frère a réussi à avoir mon extrait de naissance. Pour l'instant, j'attends. J'attends pour l'instant pour mes documents. Tous les jours, j'attends une convocation. C'est comme si à l'école, on te dit « prépare-toi, on va faire l'examen ». Donc on ne t'a pas donné le jour, donc toi tu es là, tu es préparé. N'importe quelle heure, ils vont t'appeler. Je suis tout le temps inquiet de ça, mais je suis tout le temps encore prêt pour aller rencontrer ces juges que je n'ai jamais vus, que je n'ai jamais été au tribunal, c'est ma première fois. Donc pour moi, c'est comme si j'allais au front, donc je me prépare. Si je pars là-bas, je ne sais pas quoi dire à ces gens-là, pour qu'ils comprennent ce que j'ai pu traverser, ce que je ressens actuellement. Donc, c'est comme si c'était une guerre pour moi.
Une guerre?
Oui. C'est comme si je suis là à me préparer pour aller au front.
Amadou voit la fin du mois de mars arriver avec inquiétude. Il n'a toujours pas de date pour son recours, mais il apprend qu'à la fin de la trêve hivernale, lui et ses compagnons du gymnase, un peu plus d'une soixantaine à ce jour, vont être transférés dans différentes villes. Pour lui, ce sera probablement Lille ou Nantes, où il ne connaît évidemment personne et devra recommencer à zéro la difficile mise en place d'un quotidien.
C'était Des mineurs ou des enfants isolés, un reportage d'Émilie Chaudet réalisé par Étienne Gracianet. Merci à Jean-Charles, à Caroline, à Aïcha, à Amadou, à Dembas, à Mustapha, à tous les jeunes du gymnase des Épinettes d'Ivry-sur-Seine, à Espérance Minard de la Timi, à Guillaume Cher de France Terre d'Asile et à Estelle Butez d'Equalis. L'attachée de production des Pieds sur Terre, c'est Céline Paris et notre stagiaire, c'est Rita Ruggirello. My breath, I'm gonna work myself to death.